Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous présente Jérémy, golden boy parisien de bientôt 30 ans. À l'écouter, Jérémy a connu que très peu d'obstacles dans sa vie amoureuse et sexuelle et affiche un nombre de conquêtes impressionnant. Pour être tout à fait honnête avec vous, Jérémy m'a été suggéré par la même personne qui m'a présenté Ellie. Vous rappelez-vous d'Ellie ? Ce sugar baby, érudit, à l'éloquence et sensibilité rare, à écouter ou réécouter, c'est l'épisode 51 de la saison 3. Jérémy donc ne savait pas vraiment où il était, ne connaissait pas du tout le podcast. Ainsi, sa motivation, comme vous le percevrez sûrement, n'est pas tout à fait la même que les invités habituellement. Il en reste toutefois un échange sympathique et intéressant sur son parcours et l'intérêt de faire des rencontres via une appli de sugar dating, en tant que sugar daddy dans son cas. Il y parle de sa vision d'une relation basée sur des attentes différentes. Je vous souhaite une excellente écoute et vous dis à très bientôt. Salut Jérémy.
Bonjour.
Ça va ?
Et toi ?
Ouais, ça va. Jérémy, avant de parler du sujet qui nous amène à nous rencontrer, alors évidemment ta sexualité, mais ça a sa petite particularité, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Jérémy, c'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité, à l'érotisme ?
Ouais, mon premier souvenir est...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai loin derrière moi.
Ouais.
J'ai eu mon premier souvenir aux alentours de mes 17 ans. Je pense que ça a été ma première relation, qui était une relation plutôt classique avec une personne que j'aimais particulièrement bien, qui était une danseuse. Au bout de quelques mois, j'ai fait ma première fois avec elle, chez mes parents. Et souvenir un peu drôle, c'est que quand on a fait l'amour pour la première fois, effectivement, j'entendais mes parents parler à côté, ce qui a été un peu quand même
déstabilisant.
Donc bon, histoire un peu drôle.
C'est une fille que tu as rencontrée au lycée ?
Non, c'était une fille que j'avais rencontrée à l'époque en stage d'équitation.
Mmh. Ok.
Voilà.
Est-ce qu'on parlait de sexualité facilement chez toi ?
Très facilement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient ouverts sur le sujet.
Super.
Qui ont eu, à mon avis, une sexualité très ouverte entre eux et un père qui m'a toujours beaucoup accompagné dans cette démarche.
Ça, c'est extraordinaire.
J'ai de la chance de ce côté-là. Et surtout, aucun sujet tabou à la maison. Donc, depuis mon plus jeune âge, est-ce qu'il y a une vraie bonne éducation pour cette chose-là ? Je pense que c'est vraiment chaque famille, chaque parent qui vont pouvoir accompagner leur enfant du mieux qu'ils peuvent. Mais après, c'est aussi l'enfant qui va se faire en fonction de ses envies, de ses désirs. Après, oui, on suit souvent le schéma parental. On va dire que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné et mon père qui a été très présent pour répondre à mes questions quand j'en avais à ce sujet-là.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Si tu avais des questions, tu savais que tu pouvais tourner avec un référent parental, ce qui est, je te le dis, extrêmement rare, surtout cette génération-là. Peut-être les générations futures, tu vois, les parents que nous seront peut-être un peu plus ouverts. Mais c'est vrai que la génération des jeunes gens nés 80, 90, pas le cas partout. Donc, du coup, tu as été bien accompagné.
Ah bah, j'ai eu de la chance d'avoir mon père qui allait m'acheter mon premier DVD pornographique au kiosque de l'époque. Donc oui, j'étais bien accompagné. Il n'y avait vraiment pas de tabou sur ce sujet-là.
Donc. Ah, c'est cool. Donc comment se passe, on fait un petit bain en arrière de ta première fois à 17 ans, comment se passe l'entrée dans la puberté ? Comment tu appréhendes les premiers flirts, etc.
Je pense qu'il y a un passif pour ma part. J'ai eu une jeunesse un peu compliquée. Donc, quand je suis rentré dans, on va dire, l'adolescence et, on va dire, 15-16 ans, c'était un peu touchy parce que j'étais petit, j'étais très mince et physiquement, c'était pas très facile.
Tu t'es rattrapé ?
Je me suis rattrapé. Il y a eu un grow up entre 16 et 18 ans où là, je me suis mis à faire pas mal de sport, où j'ai fait très attention à moi. J'ai même eu une opération du nez. Donc, j'ai vraiment changé radicalement.
Tu as fait un glow up de ouf.
Énorme, énorme. Et là, je suis passé de très peu de succès à je pouvais aborder les filles, j'avais confiance en moi, j'avais même plus confiance que tous mes amis réunis. Et dès qu'on devait sortir, on m'appelait parce que j'avais la chat facile et puis on pouvait plus facilement avoir une discussion avec ces dames. Compenser
c'est un bon message.
Ce déficit que j'ai eu plus jeune et, mm-hmm. et derrière, j'ai eu une vie plutôt agréable de ce côté-là où j'ai pu avoir des rencontres qui étaient les plus, on va dire, entre guillemets, banales. C'est-à-dire oui. que j'ai eu des relations plus ou moins longues qui vont de quelques semaines à quelques années. Mm-hmm. Et puis une sexualité très, très ouverte parce que j'ai eu la chance ou pas de pouvoir faire pas mal de choses depuis ce temps-là.
Ok. Quand ton corps commence à changer quand t'es ado, t'arrives à le gérer, ce corps de jeune homme qui arrive, c'est difficile pour toi, c'est pas difficile, les premières masturbations arrivent facilement. Comment tu te positionnes là-dedans?
J'ai été assez précoce dans ouais. le sens où je me masturbais beaucoup quand j'étais mmh. jeune. Ça pouvait
tu
être 3 à 7 fois par jour. Ah, c'était assez, c'était assez, assez fréquent. En fait, j'avais très envie. C'est quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et puis donc, arrivé à la première fois, je me sentais dans l'envie de continuer. Et puis, j'ai eu des facilités d'avoir déjà un sexe qui était un peu plus au-dessus de la norme, mmh. de pouvoir avoir des facilités aussi à contrôler mes envies. C'est-à-dire okay. que quand je me retrouvais avec une fille ou deux, ou après diverses expériences, je pouvais vraiment décider de faire ce que je voulais.
Okay.
Donc c'est des parties de genre là qui pouvaient durer des heures et des heures. Tant que la personne ne me disait pas « tu peux jouir en moi » ou « ce que tu veux », je ne jouissais pas tant qu'on ne me le demandait pas.
Et ça, donc, cette maîtrise, tu l'expliques comment ?
Je pense que c'est très mental, très très mental. Tout est contrôlé par le cerveau, en tout cas c'est mon recul. Voilà, aujourd'hui c'est toujours la même chose. Tout est contrôlé par mon cerveau et, mmh. et c'est comme ça que j'arrive à tenir.
C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on... À ce micro, il y a eu, il y a eu un sexologue, il y a eu des gens qui ont parlé de troubles de l'érection. Mmh. Et souvent, alors il peut y avoir des problématiques physiologiques, etc. Mais souvent, il y a une raison, en tout cas psychologique, slash gérée par le mental, comme tu dis. Donc, tu as cette première fois avec cette danseuse.
Ouais.
Tu en gardes un bon souvenir, apparemment.
Excellent.
Ok.
Quand vous avez pour la première fois une danseuse avec qui vous couchez et qui vous met la jambe, la jambe à 90 degrés, et puis après vous allez dans un bain, vous recouchez ensemble, elle se met en grand écart sur vous. Forcément, c'est des premières fois dont vous vous souvenez longtemps.
Ça met la barre haute, hein, sans vouloir.
Ça met tout de suite la barre très très haute.
Et ce corps féminin, quand tu le découvres, c'est une évidence pour toi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?
C'est une évidence, c'est naturel, c'est. C'est du bonheur, c'est des sensations au niveau du toucher, au niveau de l'odeur, au niveau de la sensibilité de la personne. C'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Maintenant, il a fallu du temps pour découvrir ce corps qui est complètement différent de celui d'un homme complètement. Et donc d'apprendre à connaître un corps féminin, c'est une redécouverte, on va dire. Mmh. On apprend à découvrir vraiment quelque chose de nouveau. Et il faut surtout s'adapter à la personne. Et c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment parce que c'est toujours une question d'échange et l'adaptation à l'autre est très importante.
Ok. Donc ça y est, tu rentres dans ta vie sexuelle active à 17 ans. Par rapport aux copains, c'est à peu près les mêmes âges où vous perdez vos virginités.
Exactement.
Et donc tu finis le lycée, j'imagine, à peu près dans ces eaux-là. Tu rentres dans ta vie étudiante.
Oui.
Comment ça se passe alors, le rapport avec les filles ?
On sort pas mal,
ouais.
plusieurs fois par semaine, on rentre de temps en temps seul, de temps en temps on rentre plus seul. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'il se passe plus de choses, qu'on commence à découvrir encore des aventures parfois assez extraordinaires. Et il s'est passé, on va dire, quelque chose d'assez marquant à ce moment-là. C'est un soir, en sortant avec ma copine de l'époque et mon meilleur ami, et la meilleure amie de ma petite amie.
Donc vous êtes quatre.
On était quatre.
Double date ?
Non, pas double date.
Ils n'étaient pas ensemble.
D'accord. Moi, j'étais avec ma petite amie.
Sa meilleure amie, ton meilleur pote.
Mon meilleur ami et elle, sa meilleure amie. Mais à ce moment-là, c'était une soirée des plus banales. Ouais. On était à quatre, on va en soirée. Et puis tout d'un coup, je sais pas, j'étais peut-être un peu bourré. Je dis à ma copine d'embrasser sa copine. Et là, elle le fait. Et moi, ça me donne des idées. Donc je commence à embrasser les deux. Et puis là, je dis à mon copain, je fais ça. Il est gêné, donc là je lui dis tiens, tu veux pas embrasser sa copine? Il dit non, mais je la connais pas, je fais pas, tu sais quoi? Vas-y, embrasse ma copine.
Et donc, ok.
Et donc, là, évidemment, je lui demande avant si elle est d'accord. Elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Elle embrasse sa petite amie. Et puis, bon, il commence à l'embrasser. Moi, j'embrasse sa meilleure amie. Ça devient un peu marrant. Et puis, là, c'était vraiment une première très, très belle expérience et drôle en même temps.
Un peu d'échangisme.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on s'est retrouvé dans un Uber à faire un shifumi pour savoir qui allait commencer avec qui. Enfin, c'était assez drôle.
Et donc, puis, vous rentrez tous les quatre?
On rentre tous les quatre.
Ok, et donc vous passez la soirée.
Alors lui, il passe une demi-heure, 40 minutes avec nous, et moi, je reste encore un petit peu avec les deux filles, quelques heures, et puis elle rentre. Enfin, après, son ami est parti, je suis resté avec ma copine.
Mais du coup, t'as fait l'amour avec ses deux filles ?
Avec les deux, oui. Et lui aussi.
Ok.
Voilà, c'est marrant.
Et c'est un bon souvenir que vous avez ensemble ?
Ouais, super souvenir. Avec toujours de mes meilleures amies.
Et ta petite amie, ça a été cool entre vous ?
Non, ça a pas créé le moindre problème. Parce qu'au contraire, on en a parlé tout de suite très tôt. Il n'y a pas eu de tabou. Après, quand on s'est quitté plusieurs mois après, on s'est même revu des années après. Donc non, ça n'a jamais mis le moindre problème dans notre relation.
Et là, c'est ta première expérience qui change un peu du cadre. Qu'on appelle un peu à ce micro vanille.
Bien sûr, c'était ma première expérience, on va dire, entre guillemets, de libertinage, échangiste si on veut, mais c'était plus, on va dire, du libertinage parce que eux, c'était des personnes, c'était même des étudiants, des gens très jeunes, entre 18 et 20 ans, et puis une c'était expérience qui est arrivée sortie de nulle part.
L'occasion, quoi.
Extraordinaire.
Ok, la chimie du moment.
Exactement.
Et alors, tu continues, donc tu as cette petite amie, comme tu disais, tu as eu quelques expériences. Comment tu continues ta vie sexuelle ? Est-ce que c'est quelque chose que tu drives, des cases à cocher, ou c'est plutôt les rencontres qui vont faire les expériences ?
Les deux, mais vu que j'ai une sexualité très très forte, j'avais souvent envie de coucher avec une fille. Je pouvais l'aborder n'importe où, dans un musée, dans la rue. Enfin, vraiment, il y a aucun endroit qui m'arrêtait, aucune personne. C'était hallucinant. Enfin, c'est toujours les filles, c'est que j'ai aucun, je m'arrête pas quoi. J'ai toujours envie de découvrir de nouvelles personnes, de rencontrer des gens. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai rencontré une fille. Et avec cette fille, j'ai senti qu'elle avait beaucoup d'expérience. Pourtant, elle était plus jeune que moi, mais une expérience sexuelle beaucoup plus importante. Et là, je lui dis, mais attends, j'ai l'impression vraiment que t'as quand même eu pas mal de copains, copines. Elle me dit, ouais. Je lui dis, mais t'en as eu combien sans indiscrétion ? Et elle me dit, 60. À 21 ans, 22 ans.
Là, je fais un bon rendement.
Ouf. 60. Mais dans les 60, comment ça se fait que t'en aies eu autant, ou qu'est-ce que t'as fait ? Et puis cette personne m'a raconté qu'elle allait dans les clubs libertins, les clubs échangistes. Et je lui dis, ah ouais, tiens, je voudrais pas qu'on y aille un soir ensemble.
Ça me chauffe.
Ça me chauffe grave.
Donc Jérémy, c'était le curieux.
On en discute, on est ensemble depuis samedi. On en discute le mardi soir. Le mercredi soir, on finit dans un club très célèbre parisien qui s'appelle Les Chandelles.
Ouais.
Mais je ne sais pas, j'ai pas encore ce déclic, je me sens un peu gêné, la fréquentation, je n'ai pas trouvé de personne correspondante à mes envies, donc là il se passe pas grand chose.
Tu fantasmais un peu ce type d'endroit ?
Je voulais découvrir.
Ouais, et c'est comment d'ailleurs quand tu rentres aux Chandelles ?
Oh, c'est sympa, c'est marrant, le contexte est très drôle, enfin en tout cas moi je prends les choses de cette manière là, ça change des boîtes de nuit, m'as-tu vu de Paris où les gens sont tous en train de se montrer, là c'est vraiment... laisser place au désir, laisser place à la liberté, laisser place à ses envies, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Mm-hmm. On n'est pas là pour se montrer, on est là pour prendre du plaisir et pour découvrir l'autre. Donc c'est un milieu parfois qu'on décrit comme malsain, mais c'est là où se passent de très belles rencontres et au contraire... où il y a beaucoup de liberté et de souplesse.
Même si cette soirée-là n'a pas concrétisé, tu as aimé en tout cas cette ambiance,
Ce qui est drôle, c'est le lendemain. C'est le lendemain de cette soirée. On avait un dîner dans un restaurant et puis là, elle vient avec sa meilleure amie. Moi, pensant qu'elle venait... qu'elle voulait que je présente sa meilleure amie, un de mes copains, j'avais invité un de mes copains pour lui présenter. Sauf qu'elles arrivent au restaurant et puis là, elle me dit « Non mais William, je suis venu avec ma meilleure amie, c'est pas pour la présenter à ton copain. » Ce soir, c'est tous les trois.
Ah.
Et là, en plein milieu du restaurant, un truc super classe, super bien. Donc, avec une ambiance, c'est un restaurant d'ambiance qui s'appelle le Noto. Les deux commencent à m'embrasser devant une table où on est quand même 8 à table, donc, et des personnes de tout genre, donc deux nanas qui sont de base plutôt BCVG qui commencent à embrasser la même personne, ouais. Dans ce genre d'endroit, ça passe pas inaperçu.
Ça dénote un petit peu, ouais, effectivement.
Et puis ensuite, on a fini par rentrer ensemble et c'était assez drôle. Ça a fini à 3, elles sont reparties, elles sont restées que pour s'amuser avec moi. Et puis derrière, j'avais l'impression en fait d'avoir été un peu le sex toys de la
soirée. Le toy boy de la soirée, ouais.
Et après, donc elles sont rentrées chez elles et j'ai fini ma soirée tout seul.
Mais dans ces cas-là, t'es plutôt cérébraliste tout ça, tu l'intellectualises ou tu te laisses guider?
Pas du tout, je profite de l'instant présent, ouais. Et au contraire, je lâche tout. Je profite vraiment de l'instant T en me disant que c'est peut-être le dernier. Donc je profite à fond et puis je me dis que si jamais demain à chaque fois je me dis bon ça arrivera jamais, c'était exceptionnel.
Oui. Et, enfin...
et puis à chaque fois il se passe des histoires de plus en plus drôles au fur et à mesure du temps.
Après c'est ce que tu me disais avant d'ouvrir les micros, tu fais des sports extrêmes.
Ouais,
donc tu as ce truc aussi de à chaque fois tu vas à fond quoi.
Je profite à chaque fois. C'est okay. Comme un saut en parachute où vous sortez de l'avion et vous êtes à 4000 ou à 2000 mètres. Vous savez que vous avez 40 secondes de chute libre et après vous allez ouvrir votre parachute. Vous profitez à fond de ces 40 secondes et puis vous laissez tout ce que vous pouvez avoir derrière vous, quoi. Donc vous oubliez votre routine du quotidien, votre métier, vos problématiques. Vous profitez de l'instant T. Et
okay.
C'est vraiment plaisant. C'est là où on peut vraiment... En fait, quand on commence même le parachute... Je pense qu'il y a un lâcher-prise qui est nécessaire et une redécouverte de soi. Donc, c'est très important. Et ce lâcher-prise permet d'avancer, de découvrir ces étapes. Et c'est pareil pour tout. Ça va être pareil pour la sexualité. Ça va être pareil pour les sports extrêmes. Et sans ce lâcher-prise, comme pour les phobies de certaines personnes, on reste bloqué et on stagne au même niveau.
Non, c'est intéressant. J'espère juste que ça ne dure pas 40 secondes, du coup. Quoi,
non. Ça dure pas 40, je pense pas non.
Ce qui est intéressant, alors j'imagine que t'as plein de rencontres comme ça, un peu dingues dans tes soirées où il se passe des moments assez intenses. Est-ce que t'as des souvenirs d'amantes un peu qui ont un peu dénoté dans ton parcours sexuel?
Non, pas plus que ça. J'ai pas de mauvais souvenirs, au contraire.
Mais sans parler de mauvais, est-ce qu'il y a eu des filles qui t'ont bluffé? Tu parlais de cette jeune femme de 21 ans qui a eu pas mal d'amants,
oui,
et d'amantes.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il y a eu des nanas qui t'ont bluffé par leur comportement sexuel?
Ouais, il y a des personnes qu'on trouve toujours en plus fort que soi. Et puis bon, je m'arrêtais pas à coucher avec des filles de mon âge. Donc je couchais avec des filles de 16 quand j'étais plus jeune. Non, quand je couchais avec des filles de 16 ans, j'étais jusqu'à mes 22, 23 ans. Voilà. Oui. Bon, mais je veux dire, après, on n'a pas forcément envie non plus de se taper une nana qui va faire une étoile de mer. On a envie de quelqu'un avec qui on va vraiment prendre du plaisir et qui va pouvoir profiter à fond de cet instant. Et au fur et à mesure des années, je pense qu'on évolue. Bon, donc c'était quand j'avais jusqu'à mes 22-23 ans, j'avais encore des petites copines de 17 ans. Et après donc, c'était plus de 18 à 42.
T'as eu des maîtresses plus âgées que toi?
47,
dis con, en même temps 47. Ok.
Ouais.
Qu'est-ce qui va définir pour toi justement un bon coup?
Un bon coup pour moi, ça va être déjà le fait que la personne prenne autant de plaisir que la personne qu'elle va avoir en face. Donc moi en l'occurrence. Et puis ça va être aussi des façons de faire, des sensations, que ça soit au toucher, au niveau de la fellation, au niveau de la pénétration, au niveau du mouvement de la personne, de la gestuelle, de la voix. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses qui viennent s'additionner pour justement définir si la personne est un bon coup. Non, c'est pas justement juste une chose, c'est vraiment l'addition de plusieurs facteurs.
Tu parles beaucoup d'essence, t'es sensible à ça?
Je pense que l'essence, c'est évidemment, on l'est tous, que ça soit le toucher, que ça soit l'odeur, que ça soit...
tous, je sais pas.
C'est important.
Il y a des hommes qui vont répondre à cette question, une fille avec qui je ris.
Oui, bien sûr.
Tu vois, enfin, ça va vraiment...
Mais quand on couche ensemble, on rit plus.
Ah bah ça dépend. Il y a des gens...
On rit, oui, on rit. Il peut y avoir des moments drôles, mais bon, il y a surtout un moment
après,
de...
C'est vraiment tout à chacun.
On n'est pas au comédie show quand on couche avec une nana, donc si on rigole...
Peut-être certains.
Pendant longtemps...
Non, mais c'est intéressant que tu mettes la sensualité avant tout. C'est ta première réponse.
Quand vous commencez à coucher avec quelqu'un, avant même d'arriver dans un lit, généralement, il y a des étapes, que ce soit un restaurant, que ce soit un verre, Et puis avant de passer à cette à l'acte, on arrive toujours à un moment un peu délicat, un moment sensuel, un moment où on va embrasser la personne, un moment où on va caresser la personne, un moment où on va même proposer peut-être un massage. Mmh. Il va toujours y avoir une phase intermédiaire. S'il n'y a pas cette phase, c'est généralement la phase, c'est pas un moment où on va rire et puis hop, on va coucher ensemble. C'est toujours un moment un peu sensuel. Donc oui, les sens sont très importants.
Toi, tu dragues sur appli ?
Oui, aussi, pas que. Sur appli, dans la rue, en soirée, il n'y a pas de lieu vraiment pour draguer. Je pense que c'est l'ouverture d'esprit qui fait qu'on peut parler à n'importe qui, n'importe où. Mmh. Bon, j'évite le travail.
Ça, c'est une bonne chose. Hein, ouais. No job in job, hein, c'est important. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement aujourd'hui où effectivement on replace beaucoup le désir des femmes, le consentement. Je t'entends en parler beaucoup de ça. À chaque fois, tu dis, tu le mets en tout cas dans ta façon de raconter, que tu demandes toujours, que tu fais attention. Tu es de cette génération où effectivement... On a peut-être eu appris à draguer sans penser un peu au consentement des femmes. Qu'est-ce que aujourd'hui, tu vois une différence avec le MeToo qui est arrivé ? Est-ce que tu vois un avant-après ?
Je pense qu'il y a un avant et un après, oui ou non. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je pense que, voilà, on nous dit oui, on nous dit oui, on nous dit non, on dit non. Mais bon, après, il faut bien poser la question, il faut bien aborder la personne pour lui poser la question, même un ça va, ou même je te trouve très jolie, est-ce que tu voudrais prendre un verre, que ce soit un oui, un non, désolé, je suis mariée, désolé, j'ai un copain. Voilà, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Un mec qui va siffler une nana en lui disant hey, madame, t'es bonne, j'ai envie de coucher avec toi. Ouais, ça ne passe pas.
Et
c'est à cause de ces personnes-là que les hommes aujourd'hui sont catégorisés. Mm-mm. Alors qu'une personne qui va être tout de suite un peu bien habillée, qui va bien présenter, moi ça m'est arrivé de descendre de ma voiture sur une carte d'avoir écrit mon numéro et de la donner à la personne qui était au feu rouge en disant écoute, je te trouve vraiment, je pense que j'ai une phrase qui est très très sympa, je vais vous faire rire, en me disant je pense que t'es le top 3 des plus beaux visages que j'ai vus dans ma vie. Donc si tu veux que je t'offre un verre, si tu veux que je t'invite à prendre un verre, voilà, je te laisse mes coordonnées.
Et ça marche.
Réellement ?
Ouais.
Je vous donne le pourcentage. 10%. Faut être réel.
C'est honnête, non ? C'est honnête.
Mais bon, voilà. Si je n'avais jamais tenté, ça aurait été zéro.
Non, c'est vrai.
Vaut mieux que ça soit 10 que zéro.
Et qu'est-ce qui t'arrête ? Une femme mariée ?
Mariée, non. Ça va être si elle sort avec un de mes amis ou voilà.
Un peu d'éthique.
Voilà, je ne rentre pas dans le cercle de mes amis.
Ouais.
Et de ma voilà, c'est surtout non. Après, si je connais pas les maris, non, ça me dérange pas.
Oui, de toute façon, c'est pas ton problème.
C'est pas mon problème. C'est pas de ma faute. Je suis pas censé savoir.
Pour parler justement du sujet qui nous a amené à nous rencontrer, on va parler de l'hypergamie. À ce micro, il y a eu Ellie qui a parlé de l'hypergamie du côté du sugar baby, même si l'appellation est un peu limitante. Idem pour toi, tu te catégorises, mais ce n'est pas ton appellation sugar daddy. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ?
Alors déjà, j'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez hypergamie ?
L'hypergamie, c'est, de ce que moi j'ai compris, c'est les relations qui se font entre milieux différents.
D'accord.
Qui sont motivées par justement cet échange qu'on peut faire d'un milieu social à l'autre.
D'accord.
Tu me confirmes ?
Ouais, je comprends votre définition. À ce moment-là, c'est plus clair pour pouvoir y répondre.
Ouais. Mais après, tu peux avoir ta définition et l'expliquer.
Non, parce que l'hypergamie, ça pourrait être avoir plusieurs personnes, je ne sais pas, avoir une notion de quantitative.
Oui, c'est vrai.
Donc, je voulais juste bien redéfinir les termes de ce mot.
Mais toi, si on dit sugar daddy, ça te va ?
Ah oui, ça me dérange pas. Mais sugar daddy, c'est vrai que c'est très, c'est connotatif. On pense tout de suite à une personne âgée.
C'est vrai. Quand je t'ai vu, je me suis dit, mais à quel moment ?
Mais oui, aujourd'hui, sugar daddy, parce que ça vient des États-Unis, parce que c'est le terme qu'ils emploient. Mais même aux États-Unis, un sugar daddy n'est pas forcément une personne âgée.
C'est ce que tu me disais.
Ouais, non, c'est. Mais ce qui est très réel. Mmh. Aujourd'hui, les sugar daddy peuvent avoir entre 25 à 35, mais même je pense qu'il y en a plus entre 25 et 35, voire 40 que...
Enfin, en tout cas, des messieurs plus âgés.
Bien sûr.
Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'un sugar daddy, pardon, hein, ouais. Mais l'image qu'on a, c'est un gars qui a 60 ans, qui est bedonnant, qui n'est pas très beau, qui est chauve, etc. Respect pour les chauves, j'en connais des très bien. Mais toi, t'arrives, on ne peut pas y croire deux secondes. T'es beau gosse, t'as la trentaine, c'est facile avec les femmes. Donc, quelle est la motivation justement de cette faire participer de la sexualité avec l'hypergamie ?
Je vais résumer la chose, c'est que donc sur le site où je me suis inscrit, où j'ai découvert le sugar dating que je ne connaissais absolument pas. Donc, partons de la base. La base, ça a été déjà, en me retrouvant un jour à une soirée libertine, un de mes copains qui ramène plein de nanas de ces sites.
Ok.
Mais des filles super sympas, avec qui on passait de très bons moments, avec qui même lui a rencontré quelqu'un, avec qui aujourd'hui il a une relation depuis un an.
Ok.
Donc c'est vraiment quelque chose qui a été constructif. Une fille
c'est
qui
un
vient
site de rencontre.
C'est un site de rencontre de base, mais avec des avantages, parce qu'on sait que la personne en question, en tout cas pour la personne masculine, va avoir des moyens plus importants. On va pouvoir, entre guillemets, apporter une sécurité financière, un filet, une protection que la personne n'a pas forcément aujourd'hui. Donc, pour répondre, pour revenir au début, cette personne a rencontré donc aujourd'hui
cette fille
avec, qui vient entre guillemets de la campagne, je ne veux pas dire la ville, et qui, avec qui il partage une relation très ouverte et très 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 belle.
Donc il l'a fait depuis. Venir dans
il
son milieu.
Il l'a fait venir. Elle habite maintenant avec lui dans un super appartement, dans un cadre sublimissime. Et puis voilà, aujourd'hui, cette personne a pu sortir d'un contexte même familial plutôt compliqué et pouvoir profiter de cette personne qui lui apportait la sécurité et de l'affection.
Bien sûr. Et puis, c'est une relation d'amour. Toi qui les connais, c'est une relation d'amour.
C'est une vraie relation d'amour.
Okay.
En plus, et ça, je peux vous dire que j'en connais des relations qui ne sont pas d'amour. Là, il y a un vrai... Et alors, l'échange va prendre va prendre sa définition vraiment sur cette personne, c'est qu'il y a un vrai retour. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour d'un côté, il y a de la sécurité de l'autre.
Okay. Voilà.
Et là, c'est là où on va faire la comparaison avec un site d'escorte ou un site d'escorte. La nana, elle va vous dire, bon, c'est 250 €, ça dure une heure et c'est terminé. Et là, on rentre sur le modèle financier temps. Là, sur ce site-là, et en tout cas pour cette personne, et ça a été mon modèle de base, c'est que cette personne, la personne masculine est venue apporter une aide donc sécuritaire à la donc qui a été au début financière. Il lui dit à chaque fois qu'il se voyait, bon bah il lui donnait un peu de sous, voilà, il faisait des trucs très sympas. Et
c'est lui qui paye le resto, c'est lui qui paye les transports, c'est
exactement.
Ok.
Exactement. Donc c'était un confort pour elle, sans que ça soit quelque chose de rentable. Vous voyez, elle ne gagnait pas sa vie avec ça, c'était pas son boulot.
Je comprends.
Donc et il y a beaucoup de confusion, je trouve, sur le sujet, et parfois de filles qui rentrent dans ce milieu plus pour gagner de l'argent.
Oui,
mais
c'est ça.
Voilà,
c'est un peu flou.
Faut remettre les choses dans le contexte.
Tu as déjà, toi, payé une escorte pour passer une nuit avec ?
Oui.
Et tu vois, du coup, la différence ?
Bien sûr.
Parce qu'une escorte, c'est une professionnelle
évidemment.
Qui calibre sa prestation.
Exactement.
Alors que là, la jeune femme dont tu parles, ils se rencontrent et ils lui offrent un confort de vie. Et c'est une relation basée sur du sentiment, ce que l'escorte ne t'apporte pas en théorie.
L'escorte vous apporte quelque chose que vous demandez. Oui. C'est-à-dire que vous êtes client. Là, vous n'êtes pas client, vous ne rentrez pas dans une relation, je pose mes conditions et je te donne l'argent pour respecter ces conditions. Là, c'est j'apprends à découvrir une personne, je respecte cette personne. Voilà, je vais la mettre dans une situation qui va la mettre à l'aise, qui va la rassurer. Et le fait que cette personne soit à l'écoute, soit dans l'échange, donc c'est bien qu'il y ait quand même une attirance mutuelle, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut construire quelque chose ou même découvrir quelqu'un. Ça peut être même une soirée, un dîner ou plus, mais c'est important de faire la différence entre les deux.
Tu as tout à fait raison de la faire parce qu'effectivement, avec tes mots, on comprend bien que ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
Et que, alors je vais essayer de trouver mes mots, mais la relation dont tu parles, elle est implicite pour beaucoup. Enfin, dans les couples traditionnels, on peut prendre pas mal d'exemples de gens qui sont mariés à quelqu'un qui a une situation professionnelle un peu plus haute. Et souvent, la femme va pas travailler, va être au foyer, va s'occuper des enfants. Et l'échange, il est ainsi. L'homme, alors c'est encore une fois une version assez traditionnelle et chacun après y trouve son intérêt, mais elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants, elle gère le ménage, lui travaille, va gagner sa vie, va payer la maison, tous les frais de la maison. Et il y a une forme aussi d'échange sur, comme tu parlais, de confort et de sécurité. Et la femme va apporter l'aspect maternel, affectif, etc. Donc c'est moins implicite en fait sur ce site où c'est assez clair.
Exactement.
Et alors, comment ça se passe ?
J'ai eu énormément de succès sur ce site. enfin en tout cas par rapport à mon expérience, mm-hmm. Je pouvais rencontrer deux trois filles vraiment par semaine si je le souhaitais, sans forcer, hein, en continuant à avoir une vie quand même très active en plus de ça. Et voilà, j'ai eu des relations où parfois la personne, il se passait rien, elle venait dîner à la maison, voilà, je lui dis écoute, ça va pas aller plus loin, je vais te reprendre un Uber, tu vas rentrer chez toi.
Tu fais quoi à manger quand t'invites quelqu'un à manger chez toi?
Non, ça dépend, si je suis en forme je cuisine, si je suis pas en forme je suis un petit délireau, mais en général ça m'arrive souvent de cuisiner pour la personne. Ouais, j'aime bien.
Ok.
Et puis c'est une preuve d'attention.
C'est vrai. Ah, c'est
la
vrai.
Personne apprécie beaucoup.
Ah bien sûr.
Donc
moi, je suis d'accord avec toi. Et puis on apprend beaucoup de quelqu'un qui fait à manger.
Ouais.
Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment, justement, contrairement, tu vois, à Tinder ou Bumble ou Once, enfin toutes ces applis-là, quelle est la différence sur ce site? Ellie, donc, qui avait parlé de lui, de son profil, expliquait que les Sugar Daddy renseignent, par exemple, leur patrimoine. Est-ce que c'est le cas?
Oui. Donc... Après, il n'y a personne pour contrôler, j'ai envie de vous dire. Donc, n'importe qui. Après, il va y avoir une... ça va être très sélectif, hein, c'est comme tout. Quand un site coûte 250 euros par mois, pour le profil Gold et 350 pour le profil Plus, je ne me souviens plus du
Platinum,
terme.
Peut-être.
Platinum, exact. ce n'est plus pareil.
Ah ouais, c'est très cher.
C'est très cher. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens, déjà, ne va pas pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une sélection naturelle qui se fait dès l'inscription sur le site.
Ok, donc tu renseignes classiquement qui tu es, ce que tu recherches, etc. Mais aussi ton patrimoine, peut-être...
Enfin, ton patrimoine. Ouais. On met entre guillemets, ce qu'on gagne au quotidien. Et puis derrière, ils demandent effectivement combien on pèse, entre guillemets. mais derrière... je ne sais pas si les filles ont accès à toutes ces informations. Je pense qu'elles ont une idée, il y a peut-être un système de notation ou un truc comme ça, mais derrière, de toute manière, la personne, dès le premier rendez-vous, va vite s'apercevoir si vous avez les moyens ou non. Si elle dit écoute, je gagne 20 000 euros par mois et j'habite
en
banlieue, dans le fin fond du 91, elle va vite comprendre que. Va vite s'apercevoir, vous la recevez, vous l'emmenez chez McDo, vite savoir que vous gagnez pas 20 000 euros par mois.
Ou alors, c'est ton McDo, mais ce serait bizarre. Quels sont le type de rencontres que tu as faites, du coup?
J'ai eu des histoires, j'ai eu vraiment plusieurs styles de rencontres.
Ouais.
J'ai eu des personnes avec qui j'ai eu des liens assez forts, avec qui même je suis parti en vacances.
Ok.
Ouais.
À qui tu offres les vacances, du coup?
Ouais, le billet d'avion, logement, la totale. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire, ça me faisait plaisir. Et puis la personne, et puis la personne m'a dit, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Donc on apporte, c'est vrai que d'apporter justement ce plaisir à ce genre de personnes qui sont reconnaissantes, elles sont reconnaissantes pour la plupart.
Oui, il y a une forme de satisfaction, j'imagine.
Ouais, c'est très,
enfin très honnête, quoi, très pur.
On sent qu'on a fait une bonne action.
Ok.
Il y a pas forcément en fait. Je pense qu'il faut enlever tout cet aspect forcément au départ, hein, qui peut être sexuel, d'avoir des attentes, parce que ça c'est complètement de la faute de certaines personnes, aussi bien parfois de certains garçons que de certaines filles. Quand certaines m'envoient un message sur ce King en me disant mais tu veux me voir, c'est 250 euros, je dis mais je pense que tu t'es trompé de site, on n'est pas sur Six Annons, si tu veux aller tarifer tes rendez-vous, ok, pas de problème, mais pas
ici. Moi en fait, c'est pas moi.
Je suis pas la cible. On doit rentrer dans un échange. Voilà, et je pense que c'est super important de bien définir les choses à l'avance.
C'est ce que disait Ellie, en fait, c'est qu'on sexualise finalement assez peu les échanges. Alors évidemment, comme dans un site de rencontre, on se séduit, on se drague, etc. Mais c'est pas, ça n'arrive pas sur la table comme ça, quoi. Il y a tout l'échange qui va avec, mais avec les règles claires qui sont, en tant que Sugar Daddy, moi j'ai une position sociale, en tout cas, je t'invite... dans mon monde, si on doit
exactement,
dire.
Voilà. C'est ça, je t'emmène dans ma routine, dans les endroits que je vais fréquenter, je t'emmène dans mon... découvrir un cercle qui n'est pas forcément le tien, découvrir des endroits qui ne sont pas forcément les tiens, et dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir ou non, et derrière, tu auras le choix de rester.
Oui, et puis si ça marche entre vous ou pas.
Exactement.
Mais ça ne t'empêche pas de continuer à draguer, séduire, matcher avec des filles qui sont de ton milieu ou d'autres milieux.
Absolument pas, ça ne change rien. C'est un plus.
Ouais.
C'est comme tout. Aujourd'hui, je suis sur 3 ou 4 applications différentes.
Il est parti.
Donc non, je suis sur vraiment 3 ou 4 applications différentes.
Et t'arrives à tout gérer.
De tout milieu. C'est-à-dire que ça peut être sélectif par rapport là seeking par rapport au milieu social, mm-hmm. ça peut être par rapport au milieu de la religion parce que mm-hmm. vous avez des applis qui sont dans ce style, ça peut être milieu libertin.
Oui. C'est vraiment
ça peut rejoindre, donc l'un n'empêche pas l'autre, il faut juste être en accord avec soi-même et puis savoir ce qu'on veut, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, on sait où on va et puis on profite de sa sexualité librement.
Et sur Seeking justement, tu cherches plutôt des histoires, plutôt des rencontres d'un soir?
Je n'ai pas d'attente précise.
T'as
sur
pas d'attente
Seeking. Non,
ouais.
Je fais en fonction du feeling qu'il va y avoir avec la personne.
Donc tu dis que t'as rencontré des filles sympas.
J'ai très bien pu passer une heure avec une fille, coucher avec, et elle a pu repartir chez elle.
Ouais.
Ou même, justement, rencontrer des personnes avec qui on va prendre le temps de se connaître, se revoir, partager des repas, partager des instants avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et puis d'autres avec qui même je suis parti en vacances, on s'est éclaté, c'était génial.
Vous avez couché ensemble?
On a couché ensemble, mais oui. Oui,
c'était... Non, genre, c'était une amourette, enfin.
Ouais, c'était une vraie relation. Oui. Et même la personne d'ailleurs, elle était vraiment amoureuse de moi et c'était compliqué de lui dire que je voulais pas avoir une relation plus longue avec cette personne ou pas de ce style-là en tout cas. C'est pas ce que je voulais au moment T. Voilà.
T'as déjà été amoureux?
Oui.
T'as mis un petit temps.
Parce que c'est compliqué aussi de définir l'amour. Est-ce qu'on connaît vraiment l'amour? Est-ce que à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un pendant un an, par exemple, la personne vous quitte, il se passe quelque chose. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça? Vous êtes triste, vous faites une dépression, etc. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour? C'est très compliqué. Chacun a son curseur. Tout dépend où vous le placez. Oui, j'ai eu des grosses déceptions. J'ai été très triste. Mais est-ce que j'étais vraiment amoureux de cette personne? Parce que je m'en suis remis plus ou moins rapidement. Mais c'est toujours très compliqué de définir ce que c'est l'amour.
C'est quoi la femme idéale pour toi?
Je pense que ça doit être avant tout sa meilleure amie.
Ok.
Parce que en dehors de... Pour moi, la femme idéale, donc ça doit être une personne qui intellectuellement est très présente.
Mm-hmm.
Une vivacité d'esprit qui va pouvoir être drôle, avoir un métier, faire quelque chose de sa vie. C'est super important. Pas quelqu'un qui va se laisser aller, quelqu'un qui va vraiment avancer, vouloir découvrir, qui va être sportif, non fumeuse, qui va vouloir avoir des enfants, qui veut avancer.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose
qui est important pour toi.
Qui est important pour moi. Donc, et qui sexuellement...
Qui n'est pas dans ton ombre, en tout cas.
Qui n'est pas dans mon
qui n'est pas dans ton ombre. Qui n'est pas, qui ne t'attend pas, qui fait sa vie. D'accord.
Une personne qui va pouvoir, au contraire, me soutenir. Et puis moi, je vais pouvoir la soutenir aussi quand elle en aura besoin.
Et sexuellement, tu disais?
Et sexuellement, en fonction de ses attentes, je m'adapterai à ses plaisirs. Donc ça, c'est super important de le souligner aussi. Si c'est une personne avec qui on s'entend super bien, ça se passe très bien, tant mieux. Si elle veut découvrir d'autres choses... Personnellement, j'ai la chance d'avoir découvert vraiment beaucoup de milieux. J'ai toujours été hétéro. J'ai eu des plans A2, des plans A3, des plans A4, des plans A5, des plans A6. Voilà, j'ai découvert des trucs vraiment complètement dingues, qui étaient à chaque fois des expériences superbes. Mais aujourd'hui, vu que j'ai découvert ces choses-là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? Oui ou non? En fait, je m'adapterai au plaisir de ma partenaire.
Si ta partenaire de vie te dit, moi c'est monogamie, fidélité absolue, tu t'adapteras.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le sexe. Le sexe, ça dure un temps dans un lit. Tout ce qui est derrière est beaucoup plus important. Les discussions que vous allez pouvoir avoir avec, les échanges, c'est un tout.
Et tu penses que tu as ce recul parce que justement, tu as, et encore maintenant, tu profites beaucoup de ta sexualité?
Complètement.
Ouais, tu n'auras pas de regrets en fait.
Complètement. Le fait d'avoir découvert tous ces milieux, d'avoir profité à fond, en tout cas, bon, je profite toujours, mais d'avoir pu profiter avec des personnes qui ont été ouvertes sur le sujet. Et ça m'a permis justement de savoir aujourd'hui ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux pas.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu ne veux pas?
Je ne voudrais pas de quelqu'un qui va mettre des barrières à tout, qui va être très autoritaire, qui va faire des histoires pour tout. Je veux vraiment que ça soit fluide, que tout soit fluide.
quelle est la, je sais pas, la, l'anecdote la plus cocasse que tu as pu vivre sexuellement? Vraiment, le, parce que tu m'as dit quand on a commencé, j'ai des trucs en rigolant. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire Parce que là, tu parlais de plans à 2, 3, 4, 5, 6. Jamais avec des garçons, si j'ai compris?
Non, jamais.
Ça t'attire pas du tout?
Non, j'ai simplement pas d'attirance envers les garçons. Si j'en avais, pourtant, je vais vous dire, je suis parti avec, j'ai un couple d'amis gays avec qui je suis parti 2 années de suite à Barcelone pour le plus grand festival gay d'Europe. J'étais dans un appart avec 5 mecs. J'avais ma chambre. Ils étaient super respectueux parce qu'ils ramenaient genre 3-4 mecs par jour. Genre, ça n'arrêtait pas. Ça, ils étaient mais chauds, mais comme jamais. C'était une boucherie. Ça n'arrêtait jamais. Ah, et donc, bon, j'avais la chance du coup d'avoir cet espace qui.
Le tien.
Qui était le mien. Et surtout, le fait que ces personnes respectaient le fait que je ne partage pas ces plaisirs-là, que ça ne m'intéresse pas, que je ne veuille pas voir ces moments-là. Et ne jamais, jamais faire quoi que ce soit qui allait me choquer. Ou qui allait me.
Mettre à l'aise, quoi.
Voilà. Donc, et sur plusieurs fois, 4-5 jours, ces personnes ont été super respectueux. Alors,
trop cool.
Ça a été génial. J'ai passé des soirées de ouf. J'allais dans des entrepôts avec 5000 mecs. Les mecs, là-bas, c'est des folies. Ils sont tous à poil, à prendre des drogues.
T'as réussi à trouver une meuf quand même?
Il y avait 3 meufs sur 5000 mecs. C'était compliqué.
J'imagine.
C'était compliqué. Mais bon, on profite de sa soirée différemment.
Oui, bien sûr, complètement. Mais donc, oui, les hommes, c'est pas un sujet. C'est...
Non,
okay.
Pas du tout.
Et donc dans ces anecdotes folles, qu'est-ce que tu pourrais partager?
Qu'est-ce que je pourrais partager? Écoutez, je pense que voilà, on revient toujours à la même chose. Bah, j'avais rencontré une fille de Seeking. On est allé ensemble à une soirée libertine. Elle a couché avec un mec qui était là. Et cette personne, après, est tombée amoureuse de la fille que j'avais ramenée.
Ah oui, ok.
Et maintenant, ça fait un an qu'ils sont ensemble.
Ah, c'est eux. Ah oui, c'est toi qui avais matché avec elle.
Ouais, on s'est amusé, on s'adore, hein, on se voit tout le temps et tout, mais aujourd'hui, voilà.
C'est eux qui ont eu le coup de foudre, quoi.
Ouais, ils ont eu le coup de foudre et c'était assez drôle.
Ça, c'est mignon.
Ça, c'est une belle histoire.
Tu seras témoin en mariage, peut-être.
Ouais, peut-être, ou peut-être pas.
Est-ce qu'il y a des pratiques là, je pense, tu me parlais du milieu libertin, mais bon, l'amalgame est rapidement fait, même si je sais que c'est très différent. Mais est-ce que le milieu BDSM t'attire? Est-ce qu'il y a des pratiques que tu as envie d'essayer? Est-ce qu'il y a des territoires encore que tu n'as pas exploré?
J'ai des amis qui peuvent pratiquer à certaines soirées, on va dire, des thèmes comme être BDSM. C'est pas quelque chose qui m'attire, je suis pas dans la violence, je préfère être dans la tendresse que dans la violence.
Ça l'est pas forcément, tu sais.
Non, mais si, c'est BDSM, c'est quand même assez chaud, c'est tout de suite latex, cuir, tout de suite.
Je me permets, parce que bien j'ai sûr. Beaucoup d'hommes qui pratiquent le BDSM à ce micro, pas forcément. Il y a des courants du BDSM qui sont très soft, qui sont très esthétiques, toi qui aimes la sensualité, l'esthétisme, etc. Notamment le shibari, qui est l'art des liens, tu vois, avec japonais. Enfin, il y a vraiment des courants.
Je peux vous dire, avant de pouvoir utiliser une corde shibari, j'en ai une. Bon courage, hein.
Parce que
injouable. C'est trop dur.
Il faut faire quelques tutos.
C'est
pas à donner à tout le monde.
Mais
en tout cas, il y a des courants qui sont plus soft que d'autres et qui sont pas forcément violents, cuir, latex, etc.
Si vous me parlez d'une paire de menottes, de l'huile, d'une bougie qui va se transformer en huile chaude que vous allez verser sur la personne, sur les sensations avec le plumeau, ces choses-là, oui, tout le monde les pratique. Enfin, en tout cas, je pense que non, pas tout le monde, mais oui, c'est des choses que je pratique fréquemment. Ah, c'est drôle, ces choses-là sont sorties énormément d'ailleurs, ce courant-là, avec le film 51 degrés. Ouais,
exactement, il y a eu un boom des achats de cravages,
de perles, de choses comme ça, de sextoys.
Exactement, exactement.
Et même pour vous dire, mais c'est... Oui, mais je ne considère pas forcément ça comme BDSM. Là, j'ai un ami qui allait dans un château BDSM. Voilà, c'est des trucs tout de suite avec des salles de torture, avec, comme dans la série un peu Bonding qu'il y a eu sur Netflix, on en vient à des choses qui sont quand même... un peu dans la violence. Donc, je pense que c'est plutôt, on va dire, de la découverte des sens. On en revient à la découverte des sens parce que c'est pas des choses qui font mal. Le BDSM, je pense que c'est plus catégorisé comme quelque chose d'un peu plus violent.
Après, tu peux recevoir, mais tu peux donner. Et toi, par exemple, si t'as une partenaire qui te demande, tu vois, qu'il y a une femme qui apprécie le BDSM et qui apprécie effectivement que sa sexualité soit assez intense pour avoir tu vois, des fessées mais à un vrai niveau, hein, pas à la claque machin, ou être attaché, etc. Tu pourrais aller là-bas, l'accompagner?
Ouais, je pourrais, bien sûr.
T'as pas de limite là-dessus?
Non. Et... tant que c'est pas sur moi, ça ne dérange pas.
Tu veux bien sauter d'un parachute?
Ouais.
Sauter d'un avion?
Non, sauter d'un avion, mais sauter... pas...
Ah ouais, mais pas... Ok, c'est
pas fou. Me faire attacher.
Ouais, comme quoi, hein, chacun sait.
Chacun ses plaisirs. C'est là où on en vient, au plaisir de chacun. Respecter simplement l'autre et tout se passe forcément bien.
T'as eu des partenaires qui t'ont fait justement des demandes un peu excentriques, qui t'ont un peu bloqué?
Non.
Non?
Non, pas plus que ça.
Non, ça va. T'es difficilement choquable?
Pas trop. Faut y aller. C'est les trucs très très gore qui ont choqué, tout ce qui va toucher à l'urine, ces choses-là, ça j'aime,
oui.
C'est pas trop mon truc.
Ouais, je peux comprendre. Après, effectivement, il en faut.
Tout ce qui va être cato, ça c'est des trucs vraiment qui me plaisent pas du tout et dont je m'éloignerai toujours. Mm-hmm. Mais sinon, non, après, je suis pas trop choquable.
Combien de femmes et de partenaires t'as eu? Tu sais?
Ouais, c'est...
Souvent, je pose la question, est-ce qu'elle rentrerait dans cette pièce?
Non. Ah, c'est sûr que non.
Sachant que les auditeurs ne savent pas, mais j'ai changé d'endroit et donc la pièce est un peu plus grande. Donc...
Non, mais même dans votre appartement, elle rentrerait
pas.
Ah
ouais.
Officiellement, en termes de... En filles, je veux dire, combien de filles, peu importe qui elles étaient, avec combien de filles j'ai couché.
Ouais, tu sais.
Je pense que même dans l'immeuble, elle rentre pas.
L'immeuble fait 5 étages.
T'as Vous êtes prête ou pas?
Ah, moi, je suis ready, vas-y.
Je suis à 532.
532. Tu tiens des comptes? Pour être précis comme ça.
Je sais exactement avec qui j'ai couché.
Les prénoms?
Tous.
Quelle mémoire?
Non, c'est pas la mémoire, c'est impossible de retenir 532 prénoms. En plus, il peut y avoir les mêmes.
Non, mais tu les écris?
Oui.
T'as un cahier?
Non.
Un tableur Excel?
Ouais.
Il y a deux écoles.
J'ai fait un tableau. Non, mais c'est pas possible. Non, faut
y a
mettre
des,
sur un tableau. J'ai mis sur un tableau Excel.
Moi, je pense à Mathieu qui a un petit cahier et qui note. Je pense à Erland Deco qui a, lui, un système de notation de 1 à 9. Non, attends, pardon, excuse-moi. 1 ou 0, c'est il a couché. Oh, je ne sais plus. Il faut réécouter l'épisode.
Moi, j'ai mis une note aussi. Ah, mais sur la beauté de la personne.
La beauté générale?
La beauté générale. Juste la totale, la moyenne de la beauté générale de la
personne. Donc, ton tableur Excel, c'est prénom?
Prénom. Que le prénom.
Et la note?
Et la note. Et l'endroit. Mais j'ai mis sur une carte. Cartographiée.
Ah, t'as cartographié? Incroyable.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de gens dans l'Ouest parisien.
alors, non, j'ai fait dans le monde parce que j'ai pas mal voyagé. Ce qui est marrant, c'est de voir les points dans le monde. Partout où je suis allé, de voir à combien de personnes je suis sorti. C'est marrant, ça.
D'accord. Et donc, tu donnes une note. Et une anecdote, une note, quelque chose pour t'en souvenir?
Non, je m'en souviens quoi qu'il arrive.
D'accord.
Donc, ça reste dans ma tête. Après, okay. Oui, j'ai déjà fait des sextapes avec certaines personnes. Oui, je les ai toujours. Non, elles sont jamais. J'ai toujours respecté ces personnes-là. Donc, personne d'autre les a vues ou autre que moi. C'est des choses qui sont privées et qui resteront de l'ordre privé. Et ouais, c'est mis à jour fréquemment.
Ok. Et pourquoi tu as besoin de ça?
Non, je me dis juste que c'est dommage de ne pas me souvenir d'une fille avec qui j'aurais passé un super moment et de pouvoir conserver. Voilà, j'ai une histoire tellement drôle. C'est une personne avec qui j'ai couché. Aujourd'hui, elle s'est mariée avec une personne hyper connue.
Ok.
Et du coup, bah, c'est marrant de savoir que j'avais couché avec elle il y a 10 ans.
Ok.
Et impossible de s'en souvenir si je ne l'avais pas écrit. Mais juste en me souvenant du prénom, je peux me souvenir du moment.
Tu ranges ça dans une case au sens propre comme figuré, quoi.
Mmh, exactement.
Je comprends. Ça te rassure de voir ce chiffre-là? C'est quoi le rapport que tu as avec ce chiffre de 532 amantes?
Juste vraiment la rigolade.
Ok.
C'est pas... Quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais plus dans la performance, mais voilà, depuis sur les 2-3 dernières années, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui m'excite. Ce que j'aime maintenant, c'est juste de me remémorer certains moments, mais aujourd'hui, c'est pas le but, c'est pas quantitatif, c'est surtout de pouvoir découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles envies, découvrir des plaisirs divers et variés.
Sur ces 532 femmes, est-ce qu'il y en a avec lesquelles tu aurais pu ne pas coucher?
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça aide toujours quand on va en soirée, on est un peu bourré. On se dit, bon, j'aurais peut-être pas dû. Mais en tout cas, je suis jamais descendu en dessous de 12. 11, je vais dire la vérité. 11. Mais jamais en dessous de 10, ça c'est vrai. Et je peux vous dire que sur les 532, il n'y en a que 3 qui font 20.
Ah, il y a
donc
des 20 sur 20.
C'est très objectif.
T'as pas pu concrétiser plus loin avec elle ?
Ah si, si elles sont dans le tableau, c'est que j'ai concrétisé.
Non, mais je veux dire, t'as concrétisé. Enfin, vous avez couché ensemble, mais est-ce que.
À chaque fois, c'était dans des contextes. Je peux vous dire qu'il y en a une, c'était l'amour de ma vie.
Et
on était juste complètement. Elle était complètement. On était trop différents. Mm. Ça a été une histoire marrante, mais qui n'a pas été.
T'as pas pu aller plus loin ?
Non.
Et pourquoi, tu sais ?
Ah oui, parce qu'elle ne voulait pas.
Ah oui, ça explique.
Ça a été. En fait, c'est une fille, j'étais amoureux d'elle depuis que j'avais 15 ans. Elle était incroyable. Partout où elle allait, je peux vous dire qu'elle rentrait dans la pièce, tout le monde la regardait. Vraiment, c'était un fantasme. Et un soir, en soirée, je vais dans une boîte parisienne et puis elle arrive. Et puis en rigolant, je lui dis bon, t'as pas marre d'être avec deux trous du cul là ? Viens, je t'offre un verre. On va au bar à shots et puis on prend 2-3 shots. Et je lui dis bon, bah, on va chez moi. Et là, elle me suit. On passe la soirée ensemble et le lendemain matin, on se lève. Anecdote très marrant, le lit est penché. J'étais dans le lit de mes parents. Le lit est cassé.
Ah.
Je casse le lit de mes parents parce que je me suis réveillé. Genre, le lit était vraiment penché. Les pieds du lit étaient cassés. Je suis oh là 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 là. Bon, je dis, tu sais ce qu'on va faire ? On va partir en Normandie. On va dans un super hôtel.
Mais vous avez couché ensemble ce soir-là ?
Ouais, on a couché ensemble ce soir-là. On va en Normandie. On couche sur le golf de l'hôtel. Un golf super connu. Donc une histoire encore hyper drôle. Et on rentre de Normandie. Et là, j'ai mon père qui m'appelle dans la voiture. Mon père qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, il me dit. Je raconte l'histoire. Ah, c'est pas grave. Et tout, je vais m'en occuper. Ma mère derrière. Mais non, tu vas pas t'en occuper. Tu vas aller t'en occuper toi. C'est une honte. On fait pas faire dans le lit de ses parents. Et ça a été.
On peut comprendre ta mère.
Ça a été drôle. Ça a été une histoire très drôle. Et puis après ce week-end, je l'ai jamais revue.
Elle a pas voulu continuer avec toi.
J'étais beaucoup plus jeune qu'elle.
Ouais. Ah oui.
Et je lui ai menti sur mon âge. J'avais 20 ans ou 21 ans. Elle en avait 25.
Ouais.
Et à cet âge-là, ça pardonne
compte.
Pas.
Ouais, ça compte. Oui, parce que
tout de suite, bah, on en revient. Hein. La sécurité,
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Des personnes qui ont des moyens plus importants, en tout cas, qu'un enfant, qu'un gamin de 20 ans. Ouais.
Parce que toi, tu étais début de vie étudiante. Elle était sur la fin. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le gap, là. Ouais, je comprends. Et t'as plus de nouvelles ?
Si, j'en ai de loin, je sais exactement ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait, mais c'est fini.
Ouais.
Enfin, il y a trop de. Le temps est passé par là.
Donc elle s'est partie du top 3 des 20.
Ouais.
Ok, et donc le minimum dans ton tableau, c'est 10-11.
11.
11.
Je suis jamais en dessous de 11.
Après. Mais après, la beauté, on est d'accord que c'est suggestif.
Complètement.
C'est...
Sauf que pour coucher avec elle, il faut avoir une attirance, un minimum d'attirance.
Bien sûr. Je me mets à la place de certaines auditrices, pour le coup, puisque tu parles de la gente féminine, ça peut être toujours un peu. Enfin, tu vois, se mettre dans une position en disant bah moi je suis quoi, etc. Et juste rassurer les gens, en fait, tu es toujours le beau de quelqu'un et le moche de quelqu'un.
Bien évidemment.
Donc c'est hyper important de le rappeler aussi, quoi.
Complètement.
Et justement, c'est quoi ton style de femme, si tu pouvais, parce que tu as expliqué comment elle était.
C'est pas forcément. Je pense que
t'as pas de type.
C'est pas la beauté en soi. Si je vais pas aimer quelqu'un de très mince, non, ça va pas être mon style. Quelqu'un de fort, ça va pas être mon style non plus. Je vais apprécier quelqu'un qui va être dans la moyenne, qui va enfin pas plus d'un mètre 70, qui va avoir des formes, sans trop en avoir. Qui va avoir du. En fait, c'est pas tant la beauté qui va m'intéresser, c'est plus le charme, la sensualité, ce que va dégager la personne.
Okay.
Et si je veux une relation avec, ça va être plus après l'intellect et le fait que la personne puisse avoir des discussions. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, le sexe, c'est marrant un temps, mais derrière, si on n'a pas envie de se lever à côté de quelqu'un qui on n'a pas envie de dire le moindre mot...
Je suis d'accord avec toi.
Ça sert à rien.
Tu te souhaites quoi pour la suite, sexuellement ?
Sexuellement, ça va être dur. ça va être très dur.
T'as coché encore déjà beaucoup de cases.
Ouais. Ça va être dur parce que j'ai eu des expériences qui étaient très sympas, mais je pense que ça s'est reproduit. Hein. J'ai eu vraiment des trucs très cool. Maintenant, je me souhaite d'avoir une stabilité plus importante.
Oui, parce qu'il y a une chose que t'as pas encore faite, c'est avoir pendant longtemps la même partenaire.
Non, et puis je me suis jamais engagé. Donc,
et ça, ça peut être un challenge aussi pour
je
toi.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une prochaine étape que c'est je viserai.
C'est un saut en parachute.
Pas tant que ça, ça va se faire naturellement. C'est pas quelque chose dont on force le destin. Il faut amener et prendre son temps. Et puis, ça n'empêche pas de profiter toutes les semaines, tous les jours. Et puis, au moment où ça arrive, savoir justement trancher et prendre les bonnes décisions au moment T.
Continuer ces rencontres, le maximum de rencontres.
Non, pas le maximum de rencontres, des rencontres qualitatives. Et puis, voir en fonction. Je peux vous dire, à un moment, je recevais genre 40 messages par jour. J'ai jamais vu ça. Alors que sur Tinder, j'en sois pas. C'était hallucinant. Dans le monde entier.
Ah ouais.
Dans le monde
entier. Il n'y a pas de limite de.
Non, je recevais des messages de Londres. J'en recevais même un paquet. Je peux vous dire que je me suis dit, c'est dingue. C'était dingue. Ouais. Mais donc, du coup, aujourd'hui, je sais exactement ce dont j'ai envie et ce dont je ne veux pas. Et je ne veux pas faire du qualitatif. De la quantité. Mm-hmm. Je préfère faire du qualitatif, me retrouver avec quelqu'un que je vais affectionner, avec quelqu'un à qui je vais peut-être pouvoir construire quelque chose ou faire tout pour pouvoir y arriver et prendre le temps de découvrir quelqu'un, la même personne en tout cas.
Tu penses que si tu as des enfants, tu seras le même père qu'il a été pour toi, ouvert comme ça?
Ah, je pense que là-dessus, j'ai rien à leur reprocher.
Et tu feras pareil?
Pareil, je sais pas.
Parce en tout cas, t'essaieras.
Mais je serai très ouvert avec mes enfants. Ils auront quelqu'un avec qui discuter de leur sexualité, ça c'est sûr.
C'est cool.
Ils pourront tout me demander à ce moment-là. Voilà, j'ai aucune barrière.
Jérémy, est-ce que tu pourrais conclure cet entretien? Généralement, on appelle ça le mot de la fin. Est-ce que tu as une conclusion sur l'entretien qu'on a passé? Un message que tu veux passer aux auditeurs et auditrices?
C'est qu'il ne faut pas juger la personne, ni à son apparence, ni à son âge, ni à ses situations. Il faut prendre la personne telle qu'elle est. Et puis, de toute manière, dans la vie, j'avais écrit ça il n'y a pas longtemps, mais toutes les personnes vont venir vous parler pour quelque chose. Mmh. Il va y avoir un intérêt qui va être toujours physique, intellectuel, financier. Ça ne sert à rien de se dire « Non, je ne vais pas parler à cette personne parce qu'elle vient me voir pour que j'invite au restaurant. » Il faut prendre les personnes telles qu'elles sont et puis accepter ces choses-là. Donc, accepter la personne qu'on a en face, pour ses bons côtés, pour ses moins bons, ne pas vouloir changer les personnes et pouvoir se laisser la chance à l'autre de découvrir peut-être une personne extraordinaire.
Merci pour ce message. Merci pour votre écoute et merci à Jérémy pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je tenais aussi à vous dire que désormais, sur le site du podcast, vous pouvez laisser un message à l'invité ou aux invités qui vous ont marqué, qui vous ont bouleversé. Je reçois beaucoup de DM ou de mails pour mes invités. Et c'est vrai que comme nous sommes sur un support audio, je trouvais ça sympa aussi que vous, auditeurs et auditrices, puissiez laisser un message. Donc c'est très simple, vous allez sur ontheverge-podcast.fr et sur la page d'accueil, c'était laisser un message vocal à un invité. Pas besoin de numéro de téléphone, vous enregistrez juste votre message. Vous avez environ 5 minutes, donc je pense qu'il y a de quoi parler. Et après, moi, je le transfère tout simplement à l'invité en question. Pensez bien à commencer votre message par le prénom et le numéro de l'épisode de l'invité en question. Sinon, comme d'habitude, des étoiles, des avis sur Apple Podcast, ça aide énormément le podcast à grandir, sachant que le dernier message date du 18 juin. Merci Pilou Mars pour ton message. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.